révéler ses veines. Ils sont arrivés par choix, par hasard, poussés par les vents, la vie, le désir d'un monde meilleur. Ils ont pris la montagne à bras le corps, scotchés par tant de beauté et de rudesse. Venus dans les années 70, 90 ou plus récemment, ils vivent dans les Cévennes. Nouveaux arrivants, réfugiés, rêveurs, hippies, glandus, punks des champs, voyageurs de tout poil, paysans en quête de terre, créateurs, poètes du quotidien, ils redessinent les contours de leur paysage. Aujourd'hui, William à Saint-Martin-de-Lensuscle.
Le premier contact avec le travail, c'est ce que m'en ont raconté mes parents. Des parents, de la classe ouvrière supérieure. Des gens qui peuvent gagner le SMIC et un peu plus, quoi. Voilà. Deux salaires, dans un petit appart, un F3. C'était leur journée de travail qui vomissait au repas tous les soirs. Entre la patronne, les collègues. Chaque soir, tu avais le droit à cette restitution d'une journée de soumission. Ça sentait pas le bonheur. À tel point que naïvement, d'ailleurs, quand j'avais 16 ans, je leur ai même demandé, mais pourquoi vous travaillez? Puisque ça a l'air d'être si douloureux, si. Tu vois? Enfin, puisqu'ils passaient leur temps à se plaindre. Mais pourquoi vous faites ça dans ce cas?
Le métro ferme à 1h du mat. Le métro ouvre à 6h du mat. Monoprix ouvre à 10h. Monoprix ferme à 20h. Les enfants partent à 8h. Les enfants reviennent à 16h. Le repas commence à 20h. On débarrasse à 20h30. Je suis borderline. T'es borderline. Il est borderline. Nous sommes borderline.
J'ai fait une école d'aquaculture. Il y en avait 4 en France, dont une à Lacanau, dans Lozère. Et c'est comme ça que j'ai découvert la Lozère, donc l'opposé de la banlieue, puisque voilà, passer d'une densité extrême à une densité, une autre extrémité, du coup. Et bon, ça a été une claque, ouais, voilà, quoi. Mon premier stage, que j'ai fait d'ailleurs dans les Cévennes, du côté du Vigan, là, chez un ancien 68ard qui avait une toute petite pisciculture et qui avait eu, voilà, qui s'était fait une vie plutôt fun, tu vois. Enfin, quand je voyais, par contraste, j'avais 16 ans, mes parents qui passaient leur temps qui étaient aigris, quoi. Et ce gars-là qui m'a pris en stage et qui, sur le parking même d'ailleurs de la gare, il a embouti sa caisse, il est même pas descendu pour voir. Chez mes parents, ça aurait été, c'était la fin du monde, tu vois, ça aurait été. On est parti et voilà, tout le stage a été à l'avenant. Ça, c'était une révélation. D'un coup, on s'est rendu compte qu'on pouvait vivre sans. Ouais, enfin, que ça soit en tout cas une source d'épanouissement. Et donc, ouais, je me suis perdu du coup. Je sais plus où j'en étais.
Bah, tu parlais du stage là, que t'étais donc ce stage là, enfin, que c'était la grosse claque, quoi.
En venant de banlieue où donc voilà, les perspectives sont assez limitées en termes pour se projeter, quand bien même ton salaire te permettrait de le faire.
Ouais.
Tu vas passer d'un F2 à un F3, la caisse, bon, elle sera neuve, voilà, mais tu peux pas aller beaucoup plus loin, quoi. Beaucoup de maisons clétantes sont paysans, limousins, tout ça. Donc moi, en tant que banlieusard, je savais quand même qu'il existait un ailleurs et qu'il y avait de la nature, qu'il y avait des vies qui étaient quand même avec d'autres tempos. Voilà. Enfin, je savais que ça existait, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens qui vivent en banlieue. J'ai commencé par le Tarn-et-Garonne.
Ouais.
C'est comme ça que je suis parti de banlieue. Je suis parti dans le Tarn-et-Garonne cueillir des fruits, quoi. J'avais une adresse une nana que j'avais rencontrée une fois en banlieue. Et je savais que ça récoltait des fruits. Je suis parti avec... j'ai fini mon objection de conscience. Deux jours après que j'ai eu terminé, j'étais dans le train avec mes affaires, enfin mes affaires, mon sac, ma guitare pour faire cliché. Et je suis arrivé dans le Tarn-et-Garonne à Moissac. Et j'ai attaqué la saison des fruits comme ça. Et puis après, de rencontres, en opportunités. Je suis allé d'abord dans l'Aveyron, dans les Hautes-Alpes. Après, je suis revenu sur le Caux-Sauter au-dessus de la Canourgue chez des copains pour venir m'installer autour de Florac. Je sentais qu'il y avait une dynamique qui correspondait, enfin, au terme de néo-ruralité. J'avais d'abord cherché à me loger, surtout le versant sud du Mont-Lozère. C'était impossible, je n'ai pas trouvé. Donc j'ai fini par habiter à Florac quelques temps. Et puis là, j'ai bossé à Quoi de Neuf. J'étais animateur de jardin à ce moment-là. Après, j'ai fini par trouver une petite maison dans la montagne où je suis resté 9 ans, avant qu'elle soit achetée par mon ex-copine. Donc après, je suis parti dans les Alpes et puis je suis revenu. Alors là, je suis revenu où ? J'ai quitté, quand je suis quitté, j'ai quitté le Bougès, là, au-dessus de Florac. Je suis parti un an et demi en Basse-Normandie où là, pour le coup, j'ai travaillé. Donc là, on avait des chantiers, alors du boulot, là, t'en voulais, il y en avait. En fait, c'est une région avec plein de bobos là-bas qui viennent de Paris, tous des baraques, du fric, qui veulent du naturel, et donc on passait notre temps à enlever du béton et à remettre de la chaux. Donc là, j'ai vachement bossé.
Ouais,
donc
ouais.
J'avais un peu de sous, et là, il y a un copain qui m'a branché sur un projet collectif, parce que moi, je voulais bien revenir en Cévennes, enfin, c'était un endroit que j'avais quitté à regret.
Travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ces gens qui courent au grand galop en auto, métro ou vélo vont-ils voir un film rigolo? Mais non, ils vont à leur boulot. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ils bossent 11 mois pour les vacances et sont crevés quand elles commencent. Un mois plus tard, ils sont costauds. Mais faut reprendre le boulot. Allez tous ensemble là. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Dire qu'il y a des gens en pagaille qui courent sans cesse après le travail, faut être fou. Moi, le travail me court après. Il n'est pas prêt de me rattraper. Le travail, c'est la santé. Tu parles, rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Maintenant, dans le plus petit village, les gens travaillent comme des sauvages, je les ai vus, pour se payer tout le confort. Quand ils ont tout peint, ils sont morts. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os.
Voilà, encore une fois, bande de feignants là.
Les montagnes, il y a, y a deux effets, quoi. C'est-à-dire que quand t'es bien, les montagnes, ça te protège. Dans le Massif Central, c'est un peu une île dans la France. Dès que tu sors du Massif Central, tu redécouvres un peu le monde moderne. Tu vois, la conso, tout ça. Mais ici, on n'est pas, tu vois, t'as pas un panneau publicitaire, t'as peu de magasins. Et t'es préservé, finalement, de ce monde libéral qui est en route. Et, enfin, je pense que pour beaucoup des gens qui sont arrivés dans les années, moi, je suis arrivé fin 80, je crois, début 90. Si t'avais envie de fuir ce qui était en train de se mettre en place, la conso, le libéralisme qui était flagrant, on nous disait toujours, tu sais, dans les années 80, on disait, ouais, on a 20 ans de retard sur les États-Unis, après, dans les années 90, on a 10 ans de retard, bon, c'est bon, maintenant, on est en phase, et ça fait pas envie. Bien que des gens de banlieue, il n'y en ait pas tant que ça, c'est des gens de province, plutôt, du coup, qui sont là, de Bretagne, de... Enfin, voilà, un peu partout, mais... De Normandie, enfin, du Nord... Mais des banlieusards, il n'y en a pas beaucoup. Les banlieusards, ils restent en banlieue, en fait. C'est un principe. Ce qui m'a fait fuir des montagnes à un moment où je suis parti, quand tu te sens pas bien, ces montagnes, à l'inverse, elles peuvent finir par t'oppresser. Et puis, en plus, cette micro-population où on est quand même, on se connaît à peu près tous, et puis avec le temps, on se connaît de mieux en mieux, et puis on a tous des passifs et tout ça. Ça finit par créer un climat où il y a des fois, tu n'as plus de place pour respirer, tu as juste envie de te barrer. Mais non, mais là, ça va. Maintenant, je crois que je partirai pas, puis vu l'ambiance générale, ça donne pas envie, quoi. En plus, dès que tu sors d'ici, tout est moche. Ici, en fond, il y a peut-être une poésie, un truc. Quand tu viens de banlieue et que quand tu as répondu à tes besoins primaires, à savoir, les besoins primaires, c'est se nourrir, se vêtir et s'abriter. Quand tu as grandi dans des immeubles et tout, et que tu te retrouves dans une petite baraque, dans la campagne, dans la montagne, tu vois, et que tu as l'impression que t'es arrivé, quoi, tu vois. Enfin, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux de plus, quoi. Enfin, c'est t'es à l'abri, c'est beau. J'ai bossé à Quézac, l'usine, vous savez, l'embouteillage. J'ai fait quelques mois là-bas. D'ailleurs, il y a les paysans du coin qui me disaient, mais William, garde ce travail et tout, c'est une bonne place qu'Ezac. Ouais, bah, alors là, pour le coup, là, t'es au-dessus du SMIC. Hein. Ici, 2000 euros, là, t'as un peu le roi de la banane quand même. Comme je lui disais, Lucien, tu vois, moi, je viens de banlieue, des usines. Il y en avait tant que je voulais. Si j'avais voulu travailler en usine, je serais pas venu ici. Pendant une période, voilà, je faisais que mon jardin, je voulais me lancer dans un élevage de poules, de cochons. Et ça m'occupait tout mon temps, et puis surtout, ça m'occupait tout mon cerveau. C'est-à-dire que t'es toujours obligé d'anticiper ce que tu vas faire de tes semaines. Ça t'oblige à être toujours acteur, toujours un peu en questionnement. Quand je me suis retrouvé salarié, notamment à Caizac, là, en fait, au bout de 2 mois, je me rendais compte que le seul moment où j'avais à réfléchir, c'était au moment où le réveil sonne. Tu dois te lever. Et là, si tu fais la bascule, après le reste, c'est un enchaînement. Tu le connais puisque tu le fais tous les jours et t'as plus à réfléchir. Tu fais juste ton truc. Tu rentres le soir, t'as fait ta journée de taf. Tu te sens légitime, donc t'as plus envie de rien foutre. Tu te poses. Et en fait, au bout de quelques mois, je me suis dit, mais c'est un truc de feignant, ça. Enfin, c'est paradoxal, hein. Mais je me suis dit, le salariat, c'est un truc de paresseux. Ton acte de bravoure et de courage, il commence, c'est le moment où tu te lèves. De toute façon, en gros, on ne demandait pas spécialement de réfléchir, on demandait d'exécuter. Et puis après, c'est angoissant, je trouve. Ce qui est angoissant, c'est ça, c'est le côté. Alors, on vend tout le temps un CDI.
Atelier 20, vitesse maximum.
Justement, la perspective d'indéfini comme ça. Moi, j'ai toujours trouvé ça super angoissant. Et moi, je crois que, finalement, c'est l'incertitude, j'en ai besoin. C'était de l'intérim, on renouvelait d'une semaine sur l'autre. Hein. C'est-à-dire que si tu l'as ramené un peu trop, la semaine d'après, t'étais pas au tableau et puis c'était fini pour toi. Sauf que j'ai un peu trop ramené, c'est-à-dire qu'à un moment arrivé, fin mai, début juin, il commence à faire super chaud, il fait 30 degrés. Et là, c'était la partie où il y a les fours pour souffler les bouteilles, donc ça chauffe le plastique et pour le ramollir. Et après, ça passe dans des moules, c'est soufflé sous pression. Donc t'as une ambiance avec un four qui fait je sais pas combien de degrés et dans des hangars, avec le cagnard qui tombe sur le hangar. Et bref, il fait 32 degrés dans le hangar. Et comme t'es censé être dans de l'alimentaire, t'es obligé d'être en bleu de travail, habillé des pieds à la tête. Et moi, s'il y a un truc qui me rend fou, c'est de pouvoir me désaffer. Quand j'ai compris qu'on pouvait pas venir en short et en tong, j'ai dit, écoutez, moi, en fait, ça m'a pas été possible. Moi, je veux pas. Par contre, je reviendrai en septembre ou en octobre. Comme c'est des places qui sont convoitées, arriver en octobre, quand j'ai rappelé pour dire, je suis de nouveau disponible. Ils m'ont dit, c'est bon, quoi. On vous a remplacé depuis. Tant pis. Pas eu de regret, mais moi, il était hors de question de passer mon été à 35 degrés, habillé en bleu de travail. L'alternative au salariat, c'est rendu possible que par le RSA. Ça, c'est la base. Et après, c'est des boulots ponctuels, déclarés, pas déclarés. À une époque, je suis arrivé avec l'idée, je vais être autonome, blabli, blabla. Bon, alors déjà, l'accès à la terre, tu t'aperçois que c'est vite problématique. Il est rarement à quelqu'un de vendeur, en fait. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai percuté en quittant le foyer familial. C'est que je voyais bien ce qui fait la différence chez les autres. C'est pas forcément qu'ils sont ou plus volontaires, ou plus méritants, ou plus travailleurs. C'est qu'il y en a qui ont du patrimoine ou qui ont du capital. Ou à un moment donné, en tout cas, ça sort. C'est-à-dire que de la famille, il y a de l'argent qui sort. Et ça leur permet ou d'acheter un terrain, ou une maison, ou de se lancer dans un projet. Et ça fait vraiment la différence. Quand j'ai compris ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tirelire, tu n'y arriveras pas, quoi. Alors après, si tu es un guerrier de l'administration, des subs, que tu as envie de plonger complètement dans le schéma, par exemple en agriculture, si tu fais les demandes de subventions, tout ça, tu peux plonger complètement. Par contre, tu n'es plus du tout maître de ce que tu veux faire. voulais faire donc ce projet de volaille et de cochon là. Sauf que quand on m'a annoncé les chiffres qu'on attendait de moi en termes de quantité, mais c'était pas du tout mes prétentions quoi. Pour moi, j'idéalisais, tu vois, 200-300 poulets en plein air, puis voilà, ça me faisait trois ronds, puis ça, puis ça, puis ça. Sauf que quand j'ai commencé à m'adresser aux administrations agricoles, pour le type de poulet que je voulais faire et tout ça, il fallait que j'en fasse, le minimum c'était 21 500 poulets. Et donc, bon.
Vous appelez ça une vie? Et pan, et pan, et pan. Plutôt qu'un petit apéro au soleil. Les sacs, les petits ronds, les sacs encore, les petits pois. Plutôt qu'une partie de foot avec les mots, mais avec moi dans les buts. Et vas-y, et vas-y, et un pour nous. Nous, et c'est-à-dire moi et mon patron, on a choisi le jour, la pêche. Ah, moi j'adore la pêche, je suis un chien de pêche. Et Alexandre Salor, viens vite me donner un petit coup de patte. Et puis le soir, la ronflette, la vraie, l'organisée. Mais dans le pays, ça jase.
Alexandre, lève-toi et marche.
Alexandre, il fait la pause.
Moi, je comprends, Alexandre.
Il m'a parlé. J'ai compris. J'arrête. Je me couche.
Quand on a 120 hectares, on ne dort pas.
Ah, parce que tu trouves ça moral de se crever comme on fait. Bon, c'est tout ce que tu trouves à me dire. Moi, je vais me coucher, mon vieux.
Mais à l'époque, oui, j'y croyais. Je croyais que j'allais être autonome, que j'allais pouvoir tout faire, du potager, des machins, des trucs. Le problème principal ici, c'est le logement. C'est-à-dire qu'il y a plein de maisons, mais il y en a 60% qui sont vides. Et comme il n'y a pas vraiment de solution, même si bah, dans les années passées, ça a été des solutions un peu alternatives, un peu à l'arrache, des constructions sauvages, des trucs comme ça, ça a un peu pallié le manque de logement. Mais là, on arrive aux limites de ce truc-là. Alors, d'abord, il y a eu une commission logement qui a été créée au sein de la commune dans laquelle j'étais, et puis... On s'est rendu compte que le cadre du conseil municipal, ça laissait pas assez de liberté. Enfin, du coup, on a choisi de créer une asso pour essayer de trouver des solutions autres que celles qui étaient permises dans le cadre administratif. Avec les copains, on a créé une association qui s'appelle La Logeuse. Et c'est surtout aussi parce qu'il y avait une maison qui était en train de se vendre sur la commune. Enfin, il y en avait plusieurs, mais bon, il y en avait une en particulier qui n'était pas très chère. Elle avait l'avantage d'être presque habitable. C'est ça qui nous a motivés. Pendant un an et demi, ça a été un peu la bataille pour créer l'asso, les statuts, et puis se faire connaître, quoi, et essayer de faire comprendre le projet qui est assez altruiste, et du coup, ça perturbait vachement, parce que l'administration, en face, quand on a fait des demandes dessus, ou même les impôts, comprenait pas la démarche, c'est-à-dire qu'on puisse... chercher de l'argent, créer une asso pour acheter une maison qui serait pas pour nous, mais pour la louer. Et du coup, ils nous avaient assimilé quasi à une agence immobilière, quoi. Alors, ce qui n'était pas du tout l'objectif, puisque nous, c'était vraiment juste pour créer de l'habitat. On s'est dit, cette maison, elle va se vendre. Vu l'ambiance générale, ça va être forcément des gens qui vont vouloir une maison en Cévennes, mais qui vont y venir un mois par an, et voilà. Et donc, on voulait empêcher ça, et dans le but de la louer à l'année. Une location pérenne. Et parce que même les propriétaires privés, il y en a de temps en temps qui louent, mais tu vois, comme là, moi je suis là pour un moment, mais ça va pas durer, là, c'est reconduit quasiment d'une année sur l'autre, tu vois. J'étais pas mal impliqué, on a levé des fonds, enfin c'était un projet à autour de 120 000 à la maison avec les frais, on partait de zéro. Il y a eu des prêts privés, des gens qui ont des sous un peu dans le coin, moi je savais pas, mais il y en a. On a fait une levée de fonds sur internet, sur les petites pierres. Et donc ça a bien marché, ça a super bien marché, ça et un prêt à la banque. Alors ça c'est pareil, hein. Ça a été, t'imagines, une asso qui n'a pas d'histoire en plus, qui veut faire un emprunt pour acheter une maison. C'est un projet qui a abouti, qui a réussi, il y a des locataires depuis, bah, ils ont fêté leur un an, il y a là, donc un couple avec deux enfants, c'est super. Et dans le même temps, la commune, elle, a fait un projet un peu similaire, plus de subventions, plus, enfin voilà, mais sur la commune, ce qui fait que dans la même année, il y a eu deux nouveaux logements, quoi. Bah tu vois, moi j'ai passé presque deux mois dans la baraque à bosser. Bon, bah, c'est sûr que si j'avais été salarié, J'aurais compté mon temps autrement. J'avais tout le temps que je voulais. Puis pour une fois, je faisais des travaux sans pression. Parce que les quelques jobs que j'ai fait de chantier, t'as vachement d'enjeux. Il y a la pression, ils attendent des propriétaires, t'as le taux horaire. Moi, c'est ça. En fait, c'est aussi le rapport à l'argent dans le travail. C'est assez compliqué. Savoir combien tu vaux, est-ce que tu travailles assez vite, pas assez vite, assez bien, pas assez bien. Voilà, il n'y a pas de limite. C'est bizarre de s'évaluer. Et là, du coup, de faire un travail... pas compter finalement, bah, ça te libère vachement et tu peux te faire plaisir à faire de la maçonnerie. Mais enfin, voilà, ça a été une belle aventure. Et surtout qui s'est soldée par une réussite.
Révéler ses veines.